à tous, merci de nous être fidèles. Nous avons donc le plaisir de consacrer aujourd'hui cette séance à Oudi Berti, un très grand écrivain dont la place mériterait d'être reconnue maintenant comme elle l'était hier, et d'une de ses plus belles pièces, Quatre-Quatre, nous vous parlerons abondamment, vous en entendrez des extraits, avec Nelly Labert, qui a fait l'édition de Folio Théâtre de Quatre-Quatre, qui est maître de conférence à Bordeaux 3, et Martin Juliette du Vachat, qui est donc, que vous connaissez maintenant fort bien, et qui nous lira un certain nombre de scènes de cette pièce. Nelly, nous allons donc vous demander d'abord, comme d'habitude, de dire quelques mots sur la place d'Oudi Berti sur la scène contemporaine, et même en dehors de la scène, puisqu'il a pratiqué tous les genres, romancier, poète, peintre, essayiste, remarquable critique de cinéma, que n'a-t-il pas fait ?
Alors, merci Jean-Yves. Alors aujourd'hui, c'est une journée en tout cas un petit peu spéciale pour Oudi Berti, en tout cas ceux qui aiment Oudi Berti, puisque c'est l'anniversaire de Jacques Oudi Berti, qui est né un 25 mars 1899, à l'autre bout de l'extrême siècle, comme il aime à le dire. Donc c'est aussi avec émotion qu'on fait cette lecture-là, qui est en fait un vrai hasard du calendrier. Mais comme le hasard fait parfois bien les choses, ça tend plutôt bien. Alors, comme Jean-Yves Tadier le rappelait, Oudi Berti, qui s'essaie un petit peu à tout, touche à tout de la littérature, et qui a reçu tous les qualificatifs, alors précurseur du théâtre de l'absurde, romantique, baroque, post-surréaliste, enfin, tout un tas, ou pré-surréaliste, tout un tas de dénominatifs qui lui ont été adressés. Œuvre prolixe aussi, puisqu'on compte pas moins de 800 références, 8 traductions, plus d'une soixantaine d'ouvrages, donc vous imaginez cette œuvre assez colossale d'Oudi Berti, qu'on connaît aussi paradoxalement assez mal. Un autre point qui est aussi intéressant pour essayer de dresser ce panorama d'Oudi Berti, c'est cette réception qui en a été faite avec une œuvre qui est réputée singulière. C'est Marcel Arlan qui disait qu'on entend une phrase, on entend un mot, on entend une strophe et on sait que c'est d'Oudi Berti. Alors il y a eu une lecture avec Duras, il n'y a pas longtemps ici, je sais que vous avez aussi ressenti peut-être cette émotion-là, mais avec Oudi Berti, c'est des choses qu'on essaiera de vous rendre, en tout cas sonorement tangibles, en faisant cet effort-là. Donc, œuvre singulière et œuvre réputée difficile, donc je m'insurge un petit peu en faux, c'est-à-dire qu'il faut aussi la lire et l'écouter. C'est une œuvre qui est populaire, Oudi Berti, qu'on a un petit peu oublié sur ce côté populaire, sur le théâtre d'Oudi Berti, mais je crois que ça sera bien d'y revenir un petit peu. Alors, Cavalier seul de la littérature, c'est un titre qui lui a été décerné, puisqu'il a écrit une pièce qui s'appelle Cavalier seul, mais c'est aussi ce que la critique a repris pour parler d'Oudi Berti. Alors, on a toujours pour Oudi Berti, pour le théâtre, puisque vous me demandiez un petit peu ce panorama-là, on a toujours l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que Oudi Berti, c'est chaque fois le Malcourt, à n'y pas couper. Alors, le Malcourt, qui reçoit le prix des jeunes pièces, donc c'est en 1837, avec dans le rôle principal Suzanne Flon, qui est l'ancienne secrétaire d'Édith Piaf et qui fait ses débuts au théâtre. Et Oudi Berti, à propos de cette pièce, nous dit qu'il l'a écrit en 2 heures, en état de transe, c'est ce qu'il confie en tout cas à Georges Charbonnier. Et cette pièce-là va avoir un succès considérable et va en même temps porter Oudi Berti et en même temps, paradoxalement, vous l'imaginez, masquer aussi les autres pièces. Alors, le Malcourt, c'est, et on va retrouver des traits déjà dans Quatre-Quatre, le Malcourt, c'est une sorte de fable politique où on va, qui se passe au XIXe siècle, dans un état qui s'appelle l'état de Courteland, et on va avoir une jeune première à la Ricard. Vous verrez, c'est toujours un petit peu compliqué pour ces jeunes premières-là aussi, chez Oudi Berti. Et cette fable politique qui va déshabiller et mettre à nu, littéralement, c'est un clin d'œil pour ceux qui ont vu la pièce, et peut-être une invitation pour les autres à la voir représentée. Alors, je passe rapidement sur cette pièce-là, mais Oudi Berti, pour le faire vite, on va avoir plusieurs étapes. C'est-à-dire que dans les années 55-60, on va avoir ce théâtre qui commence rive gauche, qui va migrer progressivement vers la rive droite, donc assurer ce succès. Années 60, gros succès théâtraux d'Oudi Berti. Dans les années 80, c'est la critique universitaire qui s'empare de Diverti. Donc on a des thèses, on a des revues auprès qui vont lui être consacrées. Donc on a vraiment un sujet et un objet d'étude. On va avoir aussi, et ça c'est important, deux metteurs en scène qui vont être Georges Vitali et Marcel Maréchal qui vont porter le théâtre de Diverti. Donc là, on a des choses qui sont un petit peu des passages clés. Alors, au niveau de cette actualité un petit peu plus récente, on a eu en 2012 La Poupée qui a été jouée à Neuilly. L'an dernier, peut-être vous en souvenez, en 2013, on a eu Le Malcourt qui a été repris au théâtre du Montparnasse, le petit théâtre de poche qui venait de réouvrir. Et puis cette année, donc, c'est ce que m'a annoncé Marie-Louise au Diverti, on va avoir Marcel Maréchal qui va reprendre Cavalier seul. Donc il commencerait les répétitions au 1er avril et ça se jouerait à Antibes. Alors pour nous, 50 ans après la mort de Diverti, puisque c'est aussi l'anniversaire de la mort de Diverti l'an prochain, il y a aussi ces actualités comme l'édition du Folio Théâtre. Donc je voulais remercier, profiter d'être ici pour remercier Antoine Gallimard et Jean-Yves Stadier de leur confiance. Et puis le Théâtre de l'Odéon aussi, puisque Marie-Laine Boulan nous accueille ici. Et on va avoir plein d'événements l'an prochain, puisque comme c'est le cinquantenaire, vous imaginez qu'il va se passer plein de choses. Donc notamment un dictionnaire au Diverti, qui va reprendre un petit peu avec toutes ces notices, ces points qui peuvent être problématiques ou ouvrir sur d'autres fenêtres. Et puis Marie-Louise au Diverti qui va consacrer un livre à son père, sur les pas de mon père, donc qui paraîtra cette année. Alors aujourd'hui, on est réunis pour entendre, je voudrais pas trop m'étendre sur Diverti, en tout cas l'œuvre générale, donc pour entendre un petit peu plus Quat Quat. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la première œuvre de Diverti qui a été jouée au théâtre. C'est pas la première œuvre de théâtre écrite, mais la première œuvre jouée. Et ce qui est intéressant pour ceux qui aiment le théâtre, c'est un petit peu de retracer ces itinéraires de comment est-ce qu'on passe à la scène. Alors en 1945, on a Diverti qui écrit en texte Quat Quat, qui paraît dans la Revue des Lettres. Et puis il fait la rencontre, en fait, en 1946, d'une jeune mime, donc qui tombe amoureux, qui s'enthousiasme pour ce texte-là, et qui est en fait avec André Rébaz, qui décide de monter la pièce. Donc la pièce est montée au théâtre de la Gaîté Montparnasse en 1946. Et puis elle va paraître en 1948, chez Gallimard, donc en théâtre 1, si vous voulez le retrouver. Donc Quat Quat sera reprise et légèrement remodifiée pour une publication. On va avoir d'autres mises en scène. Donc la première mise en scène, Diverti la qualifie lui-même d'expérimentale. On va y revenir, c'est un petit peu avec les moyens du bord. Donc vous verrez un petit peu, c'est ce que Martin va faire entendre, j'espère. On aura aussi après, en 1968, une deuxième mise en scène, donc avec Georges Vitali au théâtre La Bruyère, avec des costumes de Marie Kantz, donc une énorme production qui va avoir beaucoup de succès, qui va tourner jusqu'en 1977, ils vont même la jouer à New York. La pièce sera filmée pour la télévision, donc vraiment une deuxième mise en scène très importante. Et puis enfin, après 68, on va avoir 1996, Georges Maréchal vient d'avoir la direction du théâtre du Rond-Point. Et premier geste symbolique fort, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va monter à nouveau Quat Quat. Donc ça, c'est un petit peu pour l'histoire de ces mises en scène. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce de Quat Quat? Eh bien, pour essayer de pasticher Pirandello, on aurait six personnages, non pas en quête d'auteur, mais en quête de metteur en scène. Donc ces six personnages-là, on a déjà Amédée, on a le capitaine, qui apparaît rapidement, Clarisse, le gendarme, la mexicaine et Madame Batrilan. Alors on a un rapport à peu près équilibré pour un monde parfait, trois hommes, trois femmes, on pourra y revenir. On a aussi une sorte d'unité de temps, la pièce est assez linéaire, donc ça se passe pratiquement en 24 heures sur un navire. Donc on a une unité de temps, unité de lieu, donc voilà, ça se passe à peu près dans le Second Empire, on verra un petit peu plus en détail. Alors, au niveau du résumé, puis on écoutera déjà la première, une scène inaugurale. Au niveau du résumé, donc on se trouve sur ce bateau-là, on a ce personnage d'Amédée, qui est un jeune archéologue, qui part pour le Mexique. Il est en charge d'aller découvrir le trésor de Maximilien. Sauf qu'on apprend très rapidement qu'en fait, Amédée est aussi agent secret. Alors, le capitaine vient lui rendre visite, lui dit qu'il connaît sa double identité et va lui lire un étrange règlement que vous allez entendre, disposant que tous les agents secrets montés sur un navire ne doivent pas avoir
de... Peut-être justement lire maintenant le...
oui, si
ce passage du règlement.
Vas-y, vas-y. Alors, suspense pour la lecture.
Voilà. Exactement, merci. Ah, nous y sommes. Le capitaine d'un navire marchand, moins de 3 heures après l'appareillage, porte à la connaissance de tout individu embarqué comme agent secret de l'État, mais n'appartenant pas au cadre régulier de l'armée, de la police ou de la gendarmerie, que le dit individu est présumé s'être abstenu d'avoir organisé ou facilité l'introduction à bord de toute personne du sexe féminin non inscrite au rôle des passagers. C'est du style administratif, n'est-ce pas? Il se veut simple, condensé, limpide, il ne parvient qu'à être obscur. En outre, le dit individu s'abstiendra de nouer avec quelque passagère que ce soit des relations qui pourraient être interprétées par le capitaine comme susceptibles de compromettre le secret de la mission du dit individu. Où voulez-vous en venir? C'est moi l'individu? Ce n'est pas moi qui parle, c'est le règlement. Mais attendez, vous allez saisir. Si l'agent secret était convaincu d'avoir transgressé l'une ou l'autre de ses dispositions, il appartiendrait au capitaine, en tant qu'officier instrumentaire, de faire passer par les armes le délinquant, après lui avoir, le cas échéant, appliqué la contrainte disciplinaire numéro 4. La contrainte disciplinaire numéro 4, cher monsieur, consiste dans l'arrachement des ongles. J'admets volontiers que ce texte puisse avoir de quoi vous surprendre. Mon devoir, si je comprends bien, on me soupçonne d'avoir amené une femme sur le bateau. Comment? Dans mes valises, peut-être? Vous pourrez fouiller? Mais fouillez donc! Cette femme se dénoncera bien toute seule. On ne cache pas une femme aussi facilement qu'une maladie. Cette femme? Mais de quelle femme parlez-vous? La femme embarquée par vous en sous-main, allons! La femme embarquée par moi en sous-main? Mais je n'ai embarqué personne. Il me plaît de vous l'entendre dire. Eh bien, ce sera l'autre qui s'arrangera pour que vous soyez fusillé. Ce sera l'autre? L'autre quoi? L'autre femme, à la fin. Ne faites pas l'innocent. L'autre femme? Oui, celle avec qui vous nourrez des relations qui... Enfin, je viens de vous lire le règlement. Vous en savez autant que moi. C'est insensé. Réellement, c'est insensé. Comment? Par patriotisme? Par dévouement? Pour me rendre utile? Pour poursuivre la tradition de la famille, qui est une famille de prêtres, d'officiers? Je me lance dans une équipée dont la témérité me valait à l'instant vos félicitations, et tout d'un coup, un livre à la main, vous me traitez d'individu. Vous parlez de me fusiller, de m'arracher les ongles. Vous allez jusqu'à susciter autour de moi des femmes, des ombres de femmes dangereuses, gluantes. Est-ce ainsi qu'il convient d'en user avec un homme de ma qualité? Monsieur, un navire est un monde. Les dispositions si minutieuses que le capitaine au long cours devra observer dans ses rapports avec ses passagers, avec son équipage, avec les consuls, avec les maîtres de port, il y en a des pages et des pages. Elles peuvent paraître parfois superflues, vous déclarer abusives celles qui vous concernent. Or, sans ces dispositions, pensez-vous que la moindre vie sociale serait possible sur ces continents autonomes que sont les navires, coupés du reste des hommes, lâchés en pleine immensité? S'ensuit un échange d'arguments entre Amédée et le capitaine, pendant 3-4 pages, sur la validité, la pertinence ou non de ce règlement. Et je reprends un peu plus loin. Bref, ce qui est très pratique pour résumer 3 pages de discussion. Bref, quelle garantie puis-je avoir que mes rapports avec une dame, même les plus mondains, même les plus superficiels, n'auront pas pour moi les pires conséquences? Et puis je ne vois fichtre pas pourquoi je m'en tiendrais à des rapports mondains, superficiels. J'ai 26 ans, que diable! J'ai des yeux, j'ai des mains. Cependant, d'après vous, si j'embrasse, je meurs. Les femmes, par vos soins, deviennent des chiennes enragées, des vipères, lamentables. Vous parlez comme si rien ne dépendait que des apparences. Mais, sapristi, avant de vous plaindre de l'injustice, attendez qu'elle vous ait distingué. Croyez-moi, on est coupable ou on ne l'est pas. Quand on l'est, ça se sent, ça se voit, et l'intéressé lui-même ne s'y trompe pas. Le bien et le mal, le sentiment du bien et du mal, c'est là-dedans que ça se fabrique. Il faut que chaque homme élabore dans sa propre chair le bien et le mal. Si les hommes existent, c'est pour ça. Le règlement est moins là pour indiquer ce qu'il faut faire que pour mettre l'homme en état de procès avec lui-même. Quant à moi, ce ne serait vraiment pas la peine d'avoir préparé le brevet de capitaine, de m'être fait entrer dans la cervelle, en plus de la voilure. 4 machines, 20 chaudières, 2 autres machines pour les pompes alimentaires, et un arbre de 4000 tonnes, oui mon ami, et d'avoir accompli des centaines de traversées pour être incapable de distinguer entre un baiser qui n'engage que des sympathies charnelles, bestiales, vous me faites employer des termes, entre un tel baiser et des échanges et des contacts qui, même plus subtils, plus anodins, un coup d'œil, un frémissement, révéleraient une complicité profonde, pernicieuse. Mais finissons-en, voulez-vous, avec ce chapitre irritant. Je suis désolé d'avoir attristé le début de votre voyage. La cloche du dîner va bientôt sonner. Nous avons à bord des femmes charmantes, notamment des créoles. Aimez-vous les créoles? Certaines ont des yeux bleus de lin, avec des cheveux noirs de houille. Nous avons aussi des Américaines du Sud, la bouche pleine d'une gelée brûlante, et une commerçante de Bordeaux. Elle représente une maison de spiritueux, une dame assez forte, en qui les prestiges de l'expérience compensent, et au-delà, les charmes de l'ingénuité. Qui vous dirais-je encore? L'épouse du commissaire, la belle-mère du gouverneur de la Guadeloupe. Ah, j'allais oublier, ma fille, ma propre fille. Elle est comme vous, la mignonne. C'est son premier voyage. Vous allez voir comment on sait s'amuser sur la mer. Dès ce soir, j'en jurerai, les valses commenceront. Mon joli cavalier, j'aime tant voir briller votre lance vers sa flamme de loin. Hors de mon petit coin, je m'élance. Préparez-vous à tourbillonner.
Tous les éléments du drame sont donc posés.
Et bien posés.
Oui. La tragédie va découler de l'interdiction initiale. Et il ne va rien se passer d'autre que ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire le héros va rencontrer Clarisse, qu'il connaît depuis longtemps, qui est une amie d'enfance. Est-ce que ce serait pas le moment de dire un mot sur les femmes dans le théâtre de Liberty? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il y a défilé là, une énumération de femmes qu'on ne verra pas toutes, d'ailleurs, on n'en verra que deux. De celles qui ont été énumérées par le capitaine.
C'est vrai que chez Oliberti, il y a toujours, alors j'emploie vraiment ce mot-là, ce panthéon féminin. On va avoir la femme, et chaque fois dans toutes les œuvres, une multitude de femmes qui vont représenter ses intérêts, ses obsessions. Là, on en a 3, ce qui est assez intéressant, on y reviendra. Donc on va avoir Clarisse, que Oliberti définit dans Quad Quad, dans Lady Daskali, comme... mutine et virginale à souhait. On va avoir la deuxième femme qui va être la mexicaine, vêtements légers, pistolet. Vous voyez qu'on a déjà ce personnage-là. Et la troisième, Madame Batrilan, qui est la commerçante, enfin la représentante en spiritueux, dont on dira qu'elle sent un petit peu l'alcool à un moment donné. Donc il y a tout un jeu de Liberty avec ces femmes-là. On va avoir 3 états sociaux, 3 géographies, 3 âges. Donc cette sorte d'humanité féminine qui est représentée. Alors, Oliberti, on pourrait dire de lui que c'était l'homme qui aimait les femmes, pour reprendre Truffaut. Et d'ailleurs, Truffaut aimait beaucoup Oliberti. Il disait que pour Oliberti, toutes les femmes étaient magiques. Donc c'est un petit peu la journée de la femme déplacée. Et donc, Oliberti aimait d'abord s'inspirer de son entourage, donc de ses filles, et des amis de ses filles. Oliberti avait aussi des muses, c'est des personnages, enfin des femmes qu'il rencontrait qui devenaient des personnages dans ses œuvres. C'est le cas, par exemple, de Lumida Blasco, qui avait inspiré le Malcourt. C'est le cas aussi pour La Obrotte, avec Diane de Riaz, qui était une trapéziste blonde, et qui aussi sert dans Pucelle, et qui donc lui sert à représenter ce personnage de Jeanne d'Arc. On va la voir aussi dans Quad Quad. Donc il y a, enfin, il y a tous ces personnages-là qui rentrent en fait dans cet univers. On a aussi pour Di Berti un imaginaire qui se nourrit du cinéma. On l'aura par exemple avec Greta Garbo, donc il appelle la Lumineuse. Et puis on l'a aussi avec Marlène Dietrich, qui pour lui est l'ogresse. Donc tout cet imaginaire féminin, des comédiennes aussi, Françoise Pira, qui justement l'inspire beaucoup. Et donc cet imaginaire féminin qu'on peut retrouver avec des femmes très différentes dans Marie Dubois, où on a un personnage très fort, en tout cas pour Di Berti, où Marie Dubois travaille à l'usine, est communiste, passe son agrégation de lettres, tapine à Villejuif, meurt et inspire l'inspecteur qui va découvrir un amour post-mortem pour cette fameuse Marie Dubois. Donc vraiment des figures féminines très fortes chez Di Berti. Et pour Di Berti, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours, en tout cas, des personnages, des personnes réelles, qui sont toujours marquées par une présence corporelle. C'est-à-dire que la question de l'incarnation est toujours très forte chez Di Berti. Ce sont toujours des femmes de chair et d'os, même si on a toujours cette transsubstantiation à un moment donné. Avec une femme qui est toujours une femme guerrière. On peut le voir dans Pix and Pop, dans La fourmi dans le corps. On peut le voir avec Alarica, dans Le Malcourt. On l'a aussi avec la figure de Jeanne d'Arc, toujours dans Pucelle, mais aussi une femme qui est portée par une sorte de magie, de fantastique, de féerie, comme c'est le cas par exemple dans La Obrotte, avec La Obrotte, ou bien encore avec Mehdi dans le roman qui s'appelle Carnage. Donc on a toujours cet imaginaire vaste. Et une différence aussi qu'on aimerait vous faire entendre avec ces personnages féminins-là, qui ont toujours un point commun, qui est d'essayer d'aider Amédée, qui est celui qui est aimé, enfin qui aime Dieu. Mais la question, c'est est-ce que Dieu aime Amédée, ce qui sera aussi un des fils conducteurs de cette pièce. Mais peut-être faire entendre, si tu voulais bien, Martin,
c'est... Les personnages féminins.
Ouais, si.
Oui. J'ai juste repéré une ou deux répliques à chaque fois pour chaque personnage qui, à mon avis, les condense vraiment. Donc Clarisse, d'abord la fille du capitaine, qui Amédée lui reproche de fuir et elle répond « Cette terre est construite de telle sorte qu'on ne sait jamais ce que l'on fuit. Si les pas que l'on fait, on les fait pour le fuir, ou si tout au contraire, ces pas que l'on fait vous ramènent vers lui. » Voilà. Il y a aussi la mexicaine, dont vous allez tout de suite avoir un aperçu de la... pas la verdeur, mais la verve de son langage, disons. Qui s'adresse ainsi au capitaine, « Et tu m'appelais la fleur du Mexique. Une fleur, ça s'écueille. Atteindre ne vaut rien. Je sens dans mes globes le dour de tes boutons de cuivre. J'aurai tes ancres gravées sur moi, capitaine. À de telles traces, on reconnaît les femmes atteintes du mal de mer, du mal d'aimer les hommes de la mer. » Et enfin, Madame Batrilan, la commerçante de Bordeaux, dans un style un peu différent. Ah oui, qui materne complètement Amédée et qui lui dit « Il se comporte comme un enfant, il ne sera content que lorsqu'il aura démonté le mécanisme. Il se brise lui-même les ongles à essayer de forcer les spirales, et je te fouille, et je te tripote, et pendant ce temps, le sommeil languit. » Voilà.
Donc on va écouter maintenant sans doute la... une scène où Clarisse, qui va jouer un rôle déterminant dans l'intrigue, puisqu'elle va entraîner le destin fatal d'Amédée, s'exprime.
Voilà, donc Clarisse vient de rentrer dans la cabine d'Amédée parce qu'elle a perdu son chat. Voilà. Le petit chat n'est pas encore mort, mais il est perdu. Monsieur, je vous prie de m'excuser pour cette intrusion, mais comment ? C'est vous ? Quelle surprise! Quelle admirable surprise! Clarisse! Et oui, c'est bien Clarisse! Et toute prête à vous gronder bien fort. Je vous tiens et je ne vous lâche pas. Comment, votre sœur et vous, en 2 ans, pas un mot, pas un signe? Vous n'avez su ni écrire un mot, ni me faire un signe. Alors Versailles, le petit cheval qui trottait, pan 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 pan, la confiture, les parties de mansarde, oubliées, tout ça, périmées, révoquées. Vous êtes de jolis moineaux tous les deux, vous savez. Mais commençons par le commencement. Comment va Thérèse? Ma sœur se porte fort bien. Elle se maria l'été dernier. Nous vous en avisâmes. Vous m'en avisâtes? Et je répondis, vous avez beau être solennel comme un arbre de couche, Amédée, vous ne me démontrez pas. Nous avons vécu tous les trois trop de joyeuses journées pour que je me fasse un monde de vos passés définis. Je leur oppose résolument notre passé simple, si confiant. Au moment du mariage de votre sœur, j'avais quitté les dames du rosaire de la rue Monsieur et je vivais au Havre à l'hôtel avec papa, ou plutôt en attendant papa. Vous connaissez la vie de papa, papa vient, papa part, il n'a que moi, papa. Je n'ai pas connu la voix de ma mère, je n'ai pas de mère. J'ai si souvent pensé à ces 2 dimanches de Versailles, de Bellevue. Vous étiez mes correspondants, comme disait la supérieure. Je vous vois encore à m'aider avec une pioche dans votre ceinture. Vous cherchiez dans la terre, sous les arbres, des rasoirs préhistoriques, les registres en pierre de taille de l'homme primitif. Vous rappelez-vous? Enfin, Amédée, je vous fais peur? Vous me reconnaissez ou vous ne me reconnaissez pas? Je vous reconnais parfaitement, Clarisse. Mais cette rencontre est si surprenante. Je m'y attendais si peu. Vous me rendez bien malheureuse, mon petit Amédée. Je m'imaginais toujours que quand nous nous reverrions, vous n'auriez pas assez de bras pour me sauter au cou. Quand je pense que nous avons fait ensemble tant de promenades, tant de plaisanteries, c'était bien la peine. Nous avions même commencé un herbier. J'espère que vous vous en souvenez. J'admire votre assurance. Un herbier. Pourquoi pas un muséum? Nous n'allâmes pas au-delà d'une fleur. Une fleur de cerisier. Comment, une fleur de cerisier? C'était une fleur de pommier. Le pommier de la route de Bellevue ne me l'avait pas donnée. Je la lui avais dérobée. Comment se serait-il défendu? Cette fleur, moi, je vous l'ai donnée. Qu'est-elle devenue? Une fleur de pommier coupée de l'arbre est incapable d'enrichir de la plus petite pomme l'humanité, ni même d'une goutte de cidre. Laissons ces bêtises. Il est vraiment curieux que vous ne vous soyez pas souvenu qu'il s'agissait d'un pommier. Votre fleur de pommier, grand sot, je l'ai toujours. Je la conserve dans un livre. Le livre protège la fleur, et la fleur justifie le livre. Vous parlez comme un livre.
Sur la deuxième,
la suite de la scène. Oui. Du coup, rapidement, donc Amédée et Clarisse discutent de leur, de ce qu'ils font l'un et l'autre sur ce bateau en route vers le Mexique. Amédée parle à Clarisse de sa mission. Et tout en se racontant leurs itinéraires respectifs, ils en viennent vraiment à se, enfin, ça glisse vers une scène de déclaration d'amour réciproque. Mon ami, parlez-moi du Mexique. Parlez-moi des pyramides écroulées, nous les relèverons ensemble. Parlez-moi de ce qui vous intéresse. Ce dieu Quat-Quat, c'était un dieu. C'était le dieu d'un peuple. Ce peuple vit encore. Il n'en finit pas de mourir. Quelques familles persistent, le visage plein de boutons. Quand on leur donne des vêtements, elles les mangent. À la grande époque, pourtant, le dieu Quat-Quat... Mais je vous ennuie. Mais non. Le dieu Quat-Quat, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pourriez pas savoir, Clarisse, ce que cela peut entraîner pour moi de tremblements intérieurs, que je sois sur le point de voir et de toucher ce qui fut l'objet de tous mes instants, le principe de tous mes désirs, le dieu Quat-Quat, là-bas, dans son temple perdu, en dehors de l'histoire, à l'écart de la politique, comme un soleil immobile oublié dans un lieu sauvage. On ne possède sur lui d'autres informations que les 2 ou 3 pages d'un jésuite espagnol du XVIIe siècle. Il y a 10 ans, une expédition américaine a levé quelques plans. Sur cette base très étroite, quelques savants, et je suis l'un d'eux, Clarisse, quelques savants sont parvenus, en trimant comme des galériens, à reconstituer la figure vivante de ce Quat-Quat, de ce soleil. Et maintenant, petite Clarisse, je vais la voir, cette tête couchée, cette pierre rouillée, dans un pays que les 2 antiquités classiques ont rigoureusement ignoré. Un pays, ma chère, où l'on peut travailler librement, sans avoir à disputer son petit lopin d'Homère ou de Cicéron à 50 000 professeurs. Vous me croyez un peu fou ? Oh, je ne me plains pas. Je monte en grade, en somme. D'abord, vous m'aviez pris pour un nigaud. Amédée, votre folie, Amédée, votre seule folie, c'est de ne pas savoir que vous êtes aveugle. Mais regardez-moi donc. Vous regardez. Rien n'est plus suave. Rien n'est plus affreux. Vous me faites brûlante, Amédée. Brûlante ? J'ai hâte de connaître ce dieu Quat-Quat. Le climat mexicain est celui du feu, en effet. Du feu et du froid. Du feu en même temps que du froid. Le feu de la vie qui serait le froid de la mort. Un improvisateur s'asseyait en face du dieu, sur une escarpolette au-dessus d'un puits où brûlait un bûcher. S'il commettait la moindre faute en prosodie, les cordes de l'escarpolette étaient tranchées. Le malheureux dégringolait. Ciel. Le puits, sans doute, existe encore. Je le retrouverai. Le temple de Coatquat m'est aussi familier que le jardin de la maison à Versailles. Le temple, ou du moins son emplacement et ses vestiges. Tenez. Tenez, là, vous avez le mur des jeunes filles. Là, ce sera la base de la pyramide centrale, celle du grand miroir de pierre glacée. La tête du dieu Coatquat est là. Elle est rouge. Je vous le disais bien, elle est rouge. De part et d'autre, se dressent les colonnes royales. Tant de soleils ont passé sur elles que les lèvres se sont usées, que les prunelles se sont vidées. Autour de nous, tout est nu. Il y a peut-être des plantes. Il y en a sûrement, mais on ne les voit pas. Tout est sculpté dans une lumière aussi égale, aussi monotone que la neige. Les couleurs sont éclatantes, mais elles vibrent si fort qu'elles se détruisent l'une l'autre. Il n'y a pas de bonté ici, pas de douceur. Il y a de la grandeur, ces escaliers qui montent tout droit. Nous sommes dans l'enfer et au-delà de l'enfer. Nous sommes au-delà de l'ombre que fait la main catholique du bon Dieu. Le rayonnement de ces ruines contient un désespoir si total qu'il finit par être rassurant. Goûtez sur ce plateau le plaisir de l'amour. Goûtez dans ce lieu de la plus majestueuse détresse un amour comme le nôtre, tout excité d'un souvenir de campagne fraîche en Normandie. D'église rustique du côté d'Orléans. C'est plus fort, c'est plus âcre, Clarisse, toi mon amour, que tous les péchés réunis. C'est plus voluptueux et plus délicieux que le pardon de tous les péchés, Clarisse, toi mon destin. Regarde, ferme les yeux et regarde. Tout est méchant avec noblesse, tout est dur sans rémission, tout est vide. La morale, absente. La science, inconnue. Nous apportons l'amour. Quel amour ? Mais le nôtre. Le nôtre seulement. Notre amour ne se confond pas à cet univers mexicain de parfaite méchanceté. Dans sa tendresse, dans la rosée de sa tendresse, notre amour éclate comme un outrage à l'esprit du feu lugubre où baigne ce profil couché, ces murailles incandescentes. Ta fraîcheur passe entre ces ruines inhumaines comme une rivière de fleurs de pommier. Amédée, c'est admirable. Si loin. Il a fallu que nous venions si loin. Il y a tant d'espace dans le monde, au même endroit pourtant de l'espace du monde, au même endroit du cristal de l'espace du monde, nous sommes serrés l'un contre l'autre, comme si ce monde était petit, tout petit, et qu'il n'ait rien à faire que nous contenir. Nous sommes hors de l'ombre même de la main catholique de Dieu. Parce que nous sommes dans le tout fin fond du creux de la main de Dieu. Je me sens tout affaibli, Amédée, tout affaibli. Mon bonheur d'atteindre et de toucher le nœud de ma pensée, il ne serait rien si tu n'étais là. Si tu n'étais là pour me le rendre à moi-même sensible et vivant. Elles sont là, gravées dans la pierre des stèles jumelles, les sauterelles que j'ai décrites, les sauterelles géométriques. Les sauterelles ne sont pas des sauterelles. Ce sont des lettres qui sont des forces. Mais la force des lettres s'est épuisée. Elle est tombée comme tombe une vieille dent. Et au jour inévitable, au jour marqué sans une erreur de date, les conquérants sont venus, les Espagnols. 30 types avec 14 chevaux se sont emparés de l'Amérique. Un jour plus tôt, c'eût été un jour trop tôt. Un jour plus tard, c'eût été un jour trop tard. Je ne sais pas lire... Je ne sais pas lire les sauterelles.
oui, on va arrêter ici. D'abord, le fait qu'Amédée a signé son destin, tombé amoureux de jeune femme, il est donc passible dès maintenant de la peine de mort. Ensuite, c'est le thème du Mexique qui apparaît, la justification du titre de la pièce. Pouvez-vous nous dire quelques mots à la fois du titre de la pièce et du Mexique lui-même dans cette pièce?
J'ai beaucoup aimé votre jeu de mots avec la signature, avec les sauterelles, qui était assez une double signature pour Amédée. Mais c'est vrai que pour le Mexique, en fait, on s'est posé la question de savoir un petit peu pour l'exégèse, puisque là, on a une figure d'Amédée exégète. On peut aussi se poser la question en quoi nous-mêmes, on peut essayer de retrouver la trace de cette inspiration pour le Mexique. Donc, c'est toujours très difficile avec Audi Berti, vous l'aurez compris, qui va chercher partout les influences, les inspirations, et qui mélange tout. Alors, déjà une petite anecdote que Marie-Louise Audi Berti raconte parfois. Elle pensait quand elle était enfant que son père travaillait à la Bibliothèque nationale, puisqu'il y était tout le temps. Donc Audi Berti écrit dans les cafés, on a aussi des contemporains qui racontent que on voit toujours Audi Berti avec une sacoche bourrée de papier, les poches qui débordent de papier, toujours l'air pressé, enfin des bouts de papier partout. Alors voilà, c'est quelqu'un qui compulsivement note partout, écrit partout. Alors voilà, j'espère que ces bouts de sauterelles résonnent un petit peu dans ses écritures graphiques. Et puis, il faut aussi savoir qu'il dessinait aussi beaucoup, donc voilà. Après, il y a une autre anecdote qu'il raconte lui-même dans les entretiens avec Georges Charbonnier. Et donc, il dit que l'idée de Quat-Quat lui est venue, il était sur le fauteuil de sa dentiste, et elle lui racontait le voyage de son oncle au Mexique. Et que l'idée, oncle, Mexique, c'était un cabinet qui se trouvait rue de Rivoli, avec des boiseries au temps clair, donc il a pensé bateau. Et voilà, et tout ça a donné Quat-Quat. Alors, après, il y a aussi un autre point, alors ça, c'est plus d'histoire littéraire, c'est que dans les années 20, on a, sur le plan en tout cas politique et puis relationnel, la France et le Mexique qui développent des relations plus étroites. On a les surréalistes qui s'intéressent au Mexique, donc on a un climat, en fait, général d'intérêt pour le Mexique qui fait que Audi Berti va, en fait, mêler une sorte de Mexique d'opérette, hein. On oublie tout sous le soleil de Mexico, et puis en même temps, on a un Mexique un peu mythologique, donc vous voyez ce syncrétisme des influences. Alors, à l'exception de cet extrait-là, je vais y revenir, mais on n'a pas vraiment trop de présence, il ne faudrait pas que ça soit là non plus l'arbre qui cache la forêt, mais trop de présence du Mexique. On a surtout le personnage de la Mexicaine, que vous allez entendre revenir après. Donc la Mexicaine qui intervient et qui veut faire sa révolution, hein, je vous l'ai dit, elle est avec les pistolets, et surtout elle a dans sa main une pierre particulière qui est Coatzcoatl, qui serait susceptible d'arranger la situation pour Amédée. Donc elle lui donne, et en fait Amédée va refuser de s'en servir et va donner la pierre au capitaine. Alors cette Mexicaine en fait se renvoie pour Audi Berti à la révolution de 1910, donc à Porfirio Diaz, enfin c'est tout ce contexte révolutionnaire mexicain. Mais elle renvoie aussi, on l'a peut-être un peu plus entendu là, à la Malinche, qui est celle qui a cédé l'Amérique latine à Cortés. Donc, et en fait, il y a une sorte de mythologie dans Coatzcoatl avec, ça serait cette fameuse pierre qui aurait été donnée à Cortés et qui aurait permis justement que le monde change de direction et qui serait à nouveau donnée à Amédée. Donc vous voyez, on a tout un tas de substrats qui se mélangent avec une lecture qui est lecture comique et puis des choses qui sont plus souterraines. Alors pour en revenir à Coatzcoatl, Audi Berti a souvent l'habitude de signer ses titres de pièces avec par exemple le Malcourt, la fête noire. Donc dans les titres, on a toujours une information qui est portée. Avec Coatzcoatl, on ne sait pas trop. Alors est-ce que c'est un diminutif affectueux? Mais diminutif affectueux qui redouble, hein, qui bégaye, on y reviendra aussi peut-être. Diminutif affectueux de quoi? Eh bien de Quetzalcoatl, donc du dieu plume. Déjà paradoxe. Alors ce dieu plume qu'on a un petit peu vu, c'est la figure tutélaire pour la civilisation de Teotihuacan, donc vers le 3e siècle après Jésus-Christ, qui est donc pour cette civilisation préhispanique le dieu de la terre, le dieu de l'eau, le dieu de l'agriculture. Et puis on va voir les Toltecs qui reprennent entre le 10e et le 13e siècle cette figure-là, Et puis, on va l'avoir après pour les Aztèques. Donc, vraiment, figure importante qu'Audiberti détourne. Vous l'avez vu avec cette idée d'escarpolette. Enfin, pour Audiberti, c'est le dieu, un dieu de mort, mais c'est aussi le dieu de l'écriture. Donc, il y a cette complexité-là. Et Amédée va prendre ce rôle d'exégète, donc comme je l'ai dit, mais aussi le capitaine, où on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas aussi Quetzalcoatl, donc ce dieu plume, on l'entendra un petit peu plus tard. Mais vous voyez, ce monde-là, c'est une sorte de syncrétisme général, très latino-américain, de mythes qui se superposent. Je pense que c'est à peu près les grandes idées qu'on pourrait dire sur cette question du Mexique, qui sert plutôt de toile de fond, en fait, plus que de véritable...
On voit bien, d'ailleurs, dans le ton de Liberty, vous avez entendu à quel point cet auteur presque insituable, aussi entre Claudel et Ionesco, il y a des formules extrêmement poétiques, mais en même temps, il y a un pastiche hilarant des textes de grandes découvertes, des récits d'explorateurs, voire des récits historiques. Rien n'est sérieux, et pourtant, c'est d'une grande beauté de mots, d'images et de poésie. Ce sera comme ça jusqu'à la fin. On ne sait absolument jamais exactement sur quel pied danser. Et si tout cela est sérieux ou dramatique, et si c'est plutôt Claudel ou si c'est plutôt Ionesco. Alors on va entendre encore, je crois, quelque chose concernant le Mexique.
Pas vraiment, en fait. Si ce n'est que... Donc on continue à suivre le fil de la pièce, de l'histoire, puisque donc là vous avez vu que dans la séquence précédente, Amédée s'imagine quasiment déjà sur le territoire du temple en train d'explorer, de découvrir, et emporté par son enthousiasme et par sa double passion, disons amoureuse pour Clarisse et universitaire pour le Mexique, il révèle à Clarisse l'emplacement du trésor. Et évidemment, le capitaine arrive à ce moment-là, le prend sur le fait et lui signifie que la sentence, que la peine capitale va être exécutée. Et donc, dans la scène que je vais vous lire, Clarisse est assise sur les genoux du capitaine, son père, et lui taille les favoris à l'aide de longs ciseaux. Clouic, clouic, clouic. C'est vraiment écrit clouic, bruit des ciseaux. Clouic, clouic. Il ne faut pas surtout que l'un dépasse l'autre. Pas de favoritisme, messieurs les favoris. Sans toi, pour de bon, il pousserait jusqu'au grand diable. Mais tu es là, tu es à moi. Tu ne m'auras peut-être pas toujours. Je ne t'aurai peut-être pas toujours. Hier encore, ce n'est pas vieux, tu m'as dit, rappelle-toi, tu m'as dit, Clarisse, que les garçons, tu t'en moquais. Que tu ne te marierais jamais. Rappelle-toi, Clarisse, ma tarte aux prunes de saphir, mon beau feuillage. Mais enfin, je peux vouloir, moi aussi, faire ma vie. Tu parles comme une bourgeoise tout d'un coup, comme une femme. Faire ta vie. Mais toi-même, stupide enfant, qui est-ce qui t'a faite? Réponds. Qui est-ce qui t'a faite? Ne réponds pas. Tu me dois la vie. Ce que tu es, ce que tu as, c'est ta bibi que tu le dois. Je peux tout te rendre à l'instant. Étrangle-moi. Que je t'étrangle? Morte, quel sens aurais-tu? Non, chérie, non. Et puis si tu mourais, si jamais tu mourais, je serais si malheureux, si malheureux. Ne me laisse pas. Quand je regarde tes yeux qui sont pareils aux miens, tes yeux qui sont les miens, même s'il me résiste, je connais l'agréable péril, je savoure le délicieux malheur de languir après moi-même et de me désirer en toi. Tu m'aimes? Je t'admire. Il serait difficile de ne pas t'admirer. Tout à l'heure, tu m'as détesté. Je possède tout, je contrôle tout, tout, sauf en toi, quelque part, une onde, une lueur qui glisse, qui m'échappe. Soyons calmes, soyons mignons, deux soldats de miel, deux chevaux de sucre, donnons-nous une poignée de main avec la tête. Il se touche la tête. Franchement, pourquoi me détestes-tu? Je suis bon, je te dis que je suis bon.
Bon?
Si je n'étais pas bon, Péronnelle de mes rotules, je ne serais pas là. Si je n'étais pas là, le bonheur de boire chaud n'existerait pour personne à bord. De boire chaud ou de boire froid, ou de manger du homard, ou de se retourner dans sa couchette le soir avant le sommeil, sur un côté, sur l'autre. Si vous n'étiez pas là, ce jeune homme ne serait pas fusillé. Enfin, enfin nous y arrivons. Oh, nous avons pris notre temps, nous avons louvoyé, caboté, lambiné. Maintenant nous arrivons, nous touchons le port, le jeune homme. Amédée, squelette calcaire, deux oreilles, 6 mètres d'intestin, le cœur, n'omettons pas les genoux, le petit orteil, rikiki. Je vous écoute, ma crotte. Racontez-moi vite, bien vite, qu'il n'est pas comme les autres, lui. Elles sont immuables, les formules de la passion. Nous en avons assez ri ensemble. Cette fois, je rirai seul. Nous deux, ma vieille pomme en nougat blanc, nous deux, notre place n'est pas dans le destin des autres. Les autres ? Ceux de la terre ferme, ceux de la terre, les hommes. Ils germent, les hommes, ils crèvent, sans arrêt, comme des anchois. Ton âme aidée n'est qu'un anchois. Même s'il ne dépend que de toi, s'il n'est dorénavant pour rien dans ce qu'il est, s'il ne reçoit que du talisman de tes galons la chance de vivre et la terreur de mourir, il souffre. Sa souffrance est à lui. Sa souffrance est sur lui. Il n'a qu'à rejeter sa souffrance dans la souffrance générale. La mer est grande. Dans quelque sens qu'on la prenne, elle n'est que souffrance, famine, torture et démangeaison. Hypocrite. Tu sais bien que la souffrance des hommes ne leur est pas moins immédiate, pas moins essentielle que leur chair. Ils ne peuvent pas la rejeter. Tu me regardes comme si j'étais un requin. Mais rappelle-toi, quand tu me regardes, je me regarde. Tes yeux sont mes yeux. Tes yeux, mon amour, sont ceux du requin affreux. Clarisse, Clarisse, nous nous entendions si bien. Nous avons les mêmes yeux, le même humour. Nous avons le même polichinelle. Il contrefait Amédée. « Capitaine, je suis épris de Clarisse et j'ai l'honneur de vous demander sa main. Nous avons le même cœur. »« Non. »« Non ? » ?»« Nous n'avons pas le même cœur. J'ai dans mon cœur la souffrance de l'homme. Écoute-moi bien. Si tu le tues, je me tue. Tu n'es qu'une grue. Si Amédée meurt, je meurs. Mais foutue bougresse, personne ici ne peut mourir. » Ma petite Clarisse, toutou adoré, toi mourir, personne ici ne peut mourir sans que j'aie consenti. Eh bien, si je meurs, tu auras consenti. Fin du premier tableau.
Suggère cette scène que nous venons d'entendre entre le père et la fille.
Alors là, on va toucher à la question qu'on va retrouver à la fin de la pièce sur la dimension métaphysique. Donc, qui est qui fait quoi? Alors, peut-être j'en parlerai un petit peu plus tard, histoire de laisser le suspense jusqu'à la fin. Mais je crois qu'à la fin, je laisserai aussi le suspense, puisque je crois que ça sera à chacun de repartir avec cette question-là, puisque c'est le rôle de cette pièce, de laisser le spectateur ou le lecteur libre d'identifier qu'il veut avec qui il veut, puisque c'est toujours cette liberté offerte à Audiberti qui refuse la case, et il la refuse y compris dans ses pièces de théâtre. Ce cavalier seul dont je parlais tout à l'heure a souffert aussi de ça, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir rentrer dans une case. Vous en parliez tout à l'heure avec Ionesco, on l'a classé comme précurseur du théâtre de l'absurde, puisque vous allez voir, il y aura une explosion, donc théâtre en miettes, théâtre de l'absurde, et puis la date de rédaction de la pièce, donc 45. Et Audiberti disait qu'il refusait d'être classé parmi les quatre, enfin faire le quatrième mousquetaire avec Ionesco, Beckett, Adamov. Donc théâtre de l'absurde, non, théâtre métaphysique non plus. D'où vous imaginez le casse-tête chinois pour les metteurs en scène. Donc on aura davantage par exemple Vitali qui peut insister sur une dimension métaphysique, Maréchal qui ira plutôt vers des choses un peu plus bouffonnes, mais chacun essayant de donner cette part du bon Dieu et du diable, hein, si je devais le dire en ces termes-là, comment est-ce que je peux pondérer à la fois ces choses comiques et ces choses dramatiques. Ce qui est intéressant là, c'est peut-être de laisser en suspens ce premier acte, mais de voir comment va s'articuler le second. Donc là, on sent quand même tout ce pouvoir, cette tension dramatique qu'on a à la fin du premier acte, avec Clarisse qui dit à son père, « Si tu le tues, je me tue. » Donc on commence à sentir tout le pouvoir, ça y est, de ce capitaine qu'on prenait au départ pour un capitaine de navire. Puis vous avez peut-être entendu résonner le navire est un monde tout à l'heure, un monde immonde. Donc on commence à se dire quelle est cette métaphorisation de ce navire-là. On est bien tous embarqués vers une destination inconnue, qui est la pièce de théâtre, mais la vie, enfin on peut faire tous les parallèles possibles, bien entendu. Alors on a cette dimension, cette fin de premier acte hein, qui se termine sur quelque chose de relation père-fille, symbolique, freudien, bien sûr, on peut y voir tout ce qu'on veut, mais qui se termine dramatiquement sur une tension. Et puis, on va avoir un deuxième acte qui s'ouvre sur Amédée et le gendarme. Donc, ils sont tous les deux dans la même pièce. Alors, on a toujours cette tension dramatique-là qui est filée, puisque Amédée doit mourir, hein. On va appliquer le règlement. Début du premier acte, le règlement a été énoncé, vous l'avez entendu. Fin du premier acte, le règlement est rappelé. Donc, Amédée a enfreint le règlement à cause de Clarisse, donc il doit mourir. Comme dit Roddy Berti, toujours dans Quad Quad, c'est réglé comme le dos d'une guêpe. Donc, on ne peut pas en sortir. Et puis, Amédée va attendre d'être fusillé. Donc, c'est cette nuit d'attente. Et on le voit avec le gendarme qui le garde. Et donc, ils vont littéralement tuer le temps en attendant de tuer Amédée. Donc, on va avoir l'intermède bouffon et puis des réflexions métaphysiques, puisque le gendarme va s'endormir à un moment.
Cette brute qui ronfle, ces cloisons vernies, cette lampe, ces cloisons vernies, et cette personne qui m'est bien plus proche que tout, cette personne qui n'est autre que moi, pourquoi m'inquiéterais-je de ce qui peut lui advenir ? Maintenant que je suis sur le point de n'être plus là pour jouir de ses jouissances, ni pour souffrir de ses souffrances. Et pourquoi de cette personne-là précisément, de cette carcasse charnelle, et non pas d'une autre personne, d'une autre carcasse ? Pourquoi de cette personne entre toutes, de cette carcasse suante et glacée, je devrais me croire solidaire, et non pas de telle autre, la carcasse du capitaine, par exemple? Il se saisit du chapeau du gendarme et s'en coiffe. Ou la carcasse du gendarme. Présent! Qui va là? Vous? Assis je suis. Je ne peux pas être debout. Vous n'êtes pas assis, vous êtes debout. Vous n'avez qu'à me regarder. Regardez-moi, je suis vous. Le chapeau est bien à son poste, mais le reste ne me satisfait pas. Je vais te secouer les oreilles, fumiste, filou. Attention, si vous me touchez, c'est à vous que vous ferez mal. Maintenant, essayez toujours. Allez-y, cognez. En attendant, vous allez me rendre ce chapeau. Le chapeau? Mais vous l'avez dessus. Mais non, couillon. Vous, c'est moi. Sur votre tête, il est, le chapeau. Comment? Sur ma tête, il est. Oui, sacrebleu, puisque je suis vous. Mais alors, comment se fait-il que là, tout de suite, vous me le réclamiez? En vous le réclamant, j'agissais en mon nom. Je veux dire en votre nom, puisque je suis vous. Puisque je suis le gendarme. Je suis le gendarme. Dans ce cas, comment se fait-il que vous le gardiez sur la tête? Parce que vous me l'avez rendu. Je vous l'ai rendu? Moi, je n'ai pas bougé. Et si moi, c'est vous, comment se fait-il, dites, que vous me disiez vous? Parce que, c'est le gendarme qui parle, je me suis souvenu que dans l'arme de la gendarmerie, on ne devait pas tutoyer les détenus.
surtout quand ils sont lauréats de la Société de géographie et chargés de mission par le gouvernement.
Si vous êtes moi, dites-le-moi un peu la date que nous avons touché Proserpine à la brigade de Villefranche, Haute-Garonne, et aussi la couleur de sa robe à Proserpine. Là, je vous attends.
Comment pouvez-vous me poser une telle question ? Réfléchissez. Vous ignorez même l'existence de la jument Proserpine. N'oubliez pas que vous êtes moi, que vous êtes le prisonnier.
Il a réponse à tout. Ah, on a raison de le dire, la gendarmerie est une arme d'élite. Ils établissent des rapports du matin au soir, les bougres, et ça serait quoi l'intelligence, sinon ça, justement, établir des rapports. On peut aussi admettre que l'intelligence se confond avec la sensibilité, mais là, nous tombons dans Condillac.
S'il vous plaît.
Le gendarme prend l'accent d'Amédée. Nous tombons dans Condillac. Vous n'avez jamais entendu parler du philosophe Condillac, naturellement. Ce serait trop beau. Amédée prend l'accent du gendarme. Excusez-moi, mais il y a un Condillac à Villefranche, Haute-Garonne. Il a concouru pour le grade de maréchal des logis. Il se saoulait un peu la gueule et il n'a pas décroché le galon.
Le gendarme. Là, gendarme, vous inventez. Vous êtes de la brigade de Villefranche. Vous devriez savoir que pas un Condillac n'y compte à l'effectif. Mes relations et mes diplômes me mettent à même de vous en fournir l'assurance, et avant tout parce qu'étant un homme, je suis commun à tous les hommes. Amédée reprend sa propre voix, quel cauchemar, quel délire. Celui que nous sommes, celui entre tous que nous, les hommes, chacun nous sommes, restons-le, jusqu'à la mort. Il s'approche du gendarme et lui propose le chapeau. D'accord ? Le gendarme, après avoir hésité, d'accord.
Quel est, à votre avis, le sens de cette scène qui est un hors d'œuvre, bien sûr, dans le déroulement de l'action ? Et qui est en même temps d'une folie vertigineuse. Quelle signification lui donnez-vous à cette introduction de la pièce ?
Alors, tout d'abord, un morceau de bravoure. Je pense que vous l'avez vu bravement joué par Martin, et exceptionnellement bien joué. Donc c'est, pour l'acteur en tout cas, cette possibilité de proposer l'intermède bouffon, puisqu'on est dans une situation dramatique, Amédée attend d'être tué. Et donc, on a toujours une lecture à trois niveaux qui finissait la fin de l'acte 1. Donc, pour le spectateur, c'est quelque chose d'assez lourd. Et là, enfin, vous l'avez senti, on a une possibilité de respiration. On peut s'amuser un petit peu. Et surtout, on joue à échanger les rôles. Alors ça, cette question du double, elle est essentielle chez Audiberti. C'est aussi une question métaphysique. Je est un autre. Mais aussi, qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place de l'autre, hein. C'est ce qu'il problématise avec si j'étais le capitaine, etc., etc. Donc on a ce jeu métaphysique de changement de rôle. Et puis on va avoir surtout, et c'est quelque chose qui m'interroge assez, puisque comme je vous le disais, c'est la première pièce de théâtre jouée d'Audiberti qui n'était pas pensée en fait pour être jouée, et où on a une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le théâtre. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour quelqu'un qui n'est pas vraiment dramaturge et qui conçoit déjà l'identité théâtrale. De qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Eh bien, d'abord, c'est des rôles. C'est la possibilité d'échanger les rôles et surtout la possibilité d'offrir à des acteurs des performances sur ces rôles-là. Et je crois que cette dimension a pu séduire aussi des metteurs en scène. Je pensais à Maréchal, parce qu'il y a quelque chose que Martin nous a dramatisé avec ses effets de assis, levé. Ça me fait penser à Streller, par exemple, avec cette possibilité d'ouvrir le théâtre, de pouvoir le jouer, de pouvoir le jongler, de pouvoir le faire vivre. Alors, Audiberti, lui, ce qu'il aime, c'est jongler avec les mots. On y reviendra. Il s'est aussi plaint de ça, puisqu'on l'a eu accusé, comme il dit, il se plaint un petit peu à Georges Charbonnier en disant qu'on l'accuse d'intempérance verbale ou bien on l'accuse de logomachie. Donc c'était voilà, des qualificatifs qui portaient assez mal, et lui se voyait comme quelqu'un en fait qui travaillait les mots et qui devait être au plus proche du mot, de l'émotion. Et donc il jonglait en fait avec les mots. Et je crois que cette conscience-là du mot vivant, je crois qu'on pourra en reparler après, mais de ce mot vivant-là, on peut le percevoir. Alors plus largement, la question du doute est présente dans toute l'œuvre d'Audiberti. C'est vraiment une des caractéristiques essentielles. Dans Quad Squat, on a par exemple, alors c'est anodin, mais on a deux actes, donc cette idée de dédoublement. On a deux agents secrets, on n'est pas encore arrivé à ça, mais on évente un petit peu le mystère. On va avoir deux femmes d'un certain âge qui vont essayer de sauver Amédée. On a vraiment la présence du double de façon très apparente dans la pièce qui s'appelle Pucelle, puisque Pucelle va parler de Jeanne d'Arc et va nous représenter deux personnages pour parler de Jeanne d'Arc. Donc on va avoir sur scène Joannine et Jeannette, qui toutes deux vont être une des faces possibles de Jeanne d'Arc et qui vont échanger leur rôle jusqu'à ce que la pauvre Jeannette qui remplace Joannine finisse par être vraiment cramée sur scène. Bon. Donc vous voyez, prise de risque maximale pour les comédiens. Alors la question du double, voilà, c'est quelque chose de façon générale qui intéresse l'œuvre et qui permet aussi, je crois, de faire résonner à la fois en écho, au niveau des sonorités, on l'a entendu plusieurs fois, mais aussi métaphysiquement, de comment est-ce que je peux déplacer le point de vue, qu'est-ce qui pourrait être autre, l'autre face d'eux.
On va vous écouter de nouveau.
Mais bien volontiers.
C'est pas ça,
je vous remercie. Non, c'est pas, c'est pas, oui. La mexicaine.
La mexicaine. Tu as introduit le personnage de la mexicaine, on en a un peu parlé tout à l'heure.
Après... Oui. Alors, le personnage de la mexicaine, ce qui, vous l'avez entendu tout à l'heure, marqué par cet accent un petit peu fort. Alors, Audiberti va énormément s'amuser avec elle. Alors, on va avoir soit l'insertion, alors soit l'accent comme Martin a essayé de le rendre tout à l'heure, soit l'insertion carrément de mots espagnols. On a bueno, caramba, enfin, Audiberti va s'amuser, jusqu'à insérer des mots qui n'existent pas du tout, genre jolito, d'un coup. Donc, la mexicaine, c'est celle qui va être ce premier intervenant qui va faire basculer l'intensité dramatique. Donc, elle va arriver alors qu'Amédée est aux prises avec le gendarme, pour lui donner, bien sûr, avec ses pistolets, pour lui donner l'obsidienne, la fameuse pierre de Coatcoat, qui pourra solutionner tous les problèmes. Alors, cette mexicaine-là va être aussi interprétée, donc il y aura Catherine Arditi, enfin, on y reviendra aussi, mais va être cette figure aussi de respiration qui vont appeler l'autre double, qui va être Madame Batrilan, qui va être cette sorte de double par défaut de cette bourgeoise bordelaise, etc. Et donc, cette mexicaine qui ouvre à nouveau cet imaginaire-là et la possibilité qu'il se passe à nouveau quelque chose d'explosif sur la scène théâtrale.
Donc, la mexicaine surgit dans la cabine au moment où le gendarme vient d'en sortir. Et elle est armée, elle menace Amédée avec cette arme. Les capitaines est une vieille ficelle. Et sa fille, un singe pervers. Ils s'empareront du trésor. C'est réglé comme les taux de la guêpe. Il ne faut pas que ces navires aillent là-bas. Il faut qu'ils fassent naufrage. Tous les deux, nous nous sauverons dans une chaloupe. Il y en a une où j'ai fait mettre en secret, par un gabier, tout ce qu'il faut. Chocolat, cigare, citron, oreiller, couverture. Et le naufrage, vous vous en chargerez du naufrage? Suivez-moi bien. Il y avait un dieu au Mexique, autrefois. Un dieu qui... Oui, quat quat. Caramba, vous les connaissez? Si je le connais, il vivait et planait dans le gouffre où la pensée de Platon et de Socrate ne s'aventure jamais. Puisque vous êtes si fort, vous devez savoir, ça traîne dans tous les livres, qu'il s'était effacé depuis quelque temps déjà, quand les conquérants sont arrivés. Il avait dit qu'il s'en allait du côté du couchant, vers la mer, et qu'il en avait assez. Il avait laissé pourtant dans le Mexique cette pierre ronde, transparente. Oui, la pierre glacée, qu'on appelle aussi l'obsidienne. Cette pierre, elle était sa force, son image. Et quand Cortés il a débarqué, c'est une femme, et ça aussi c'est dans les livres, c'est une femme comme j'en suis une, et comment reconnaître une femme d'une autre, c'est une femme qui lui a donné un petit bout de cette pierre à Cortés. Mais il y en avait assez pour faire du mal ou du bien. Beaucoup de mal ou beaucoup de bien. et quand Cortés, 30 soldats, 14 chevaux, quand Cortés a rencontré aux pyramides l'armée des Rouges, 300 000 hommes qui avaient des arbalètes mécaniques, capables de lancer 15 flèches à la fois, il n'a eu Cortés qu'à élever la pierre dans sa main au soleil. Et les Rouges, miséricorde, des proches en proche, ils se sont cru que c'était Quat-Quat qui revenait de la mer. Et tout ce que leur a dit l'homme qui portait la pierre, ils l'ont fait. Ils ont mis feu à leurs flèches. Ils ont mis feu à leur bibliothèque. Ils sont devenus du feuillage sec. Mais pourquoi Quat-Quat agissait-il ainsi contre son propre peuple? Les dieux passent chacun à son tour devant la fenêtre. Les navires de l'Est portaient des mâts avec un bras de bois cloué en travers. Le vent poussait la croix. Bref, ces morceaux de pierre, je les possède. On peut en faire avec des opérations. Je jette la pierre dans la citerne des machines et les navires, ils disparaissent. Ils se transforment en serpents de fumée ou bien ils pètent. Mais nous, de toute façon, nous savons la chaloupe parce que j'ai fait dessous avec la pierre les signes de la sauterelle.
Oui, alors ce passage de Mexicaine est à la fois une sorte de hors d'œuvre, de nouveau un numéro de plus dans le déroulement de la pièce, un numéro à la fois comique et poétique, et c'est en même temps une illustration du titre magique de la pièce de théâtre. C'est à la fois le nom du dieu et le nom de la pierre, semble-t-il, cette pierre par laquelle tout est possible. Et alors finalement, quelle est l'attitude de comment comprendre l'attitude du héros face à ces offres de sauvetage qui se multiplient? Il y en a encore une maintenant.
Là, Amédée va avoir deux possibilités de s'échapper de la dimension dramatique dans laquelle il est enfermé. Donc ça, c'est la première. La deuxième, ça va être Madame Batrilan qui va arriver dans une sorte de coup de théâtre pour annoncer qu'en fait, le véritable agent secret, c'est elle-même. Et Amédée va refuser et marcher, on va le voir aussi, droit vers son destin. Cette dimension métaphysique, on le voit avec la croix, revient sans arrêt. Mais je crois que là, ce qui est aussi intéressant, c'est toujours ces échappées belles qui sont proposées à l'imaginaire, par la mexicaine, par ses choix d'Amédée, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le choix et qu'on va s'accrocher non pas à une possibilité de destin, mais on va s'accrocher à des mots. On a vu chaloupe, qui revenait chaque fois, et ce destin qui va s'incarner dans un mot qu'on accepte de prendre ou qu'on n'accepte pas. C'est aussi le cas dans Coat-Coat. Ce qui me semble plus essentiel chez Audiberti, c'est cette conscience qu'il a de pouvoir tout faire exploser par le langage, puisque c'est sur ça que va finir la pièce. On va y revenir et puis vous l'entendrez. Il y a Nougaro qui lui consacre une chanson avec le fils du maçon, puisque Audiberti est le fils d'un maçon, et Audiberti se représentait souvent comme étant celui qui était marketeur, qui agençait, en tout cas très matériellement, des bouts de carrelage, des tessons, de la mosaïque. Et donc on retrouve ça aussi dans cette conception métaphysique, c'est-à-dire qu'on va assembler des bouts ensemble en faisant résonner des choses qui vont être contradictoires. D'où la difficulté, je crois, à un moment donné, de pouvoir décider, puisque le choix de refus d'Amédée met en fait en faillite tous les choix possibles qui sont offerts aux spectateurs. C'est-à-dire que la question du choix, du libre arbitre, puisque c'est ça qui est posé, rencontre comme une sorte de force antagoniste l'histoire qui de toute façon est déjà écrite. C'est-à-dire qu'il était déjà écrit dans l'histoire qu'il y aurait la tentation et qu'il y aurait Clarisse. Il était déjà écrit dans l'histoire qu'il y aurait un capitaine de navire et que ce capitaine ne sait pas pourquoi mais doit appliquer un règlement qui est par définition absurde. Donc on est chaque fois dans quelque chose qui est déjà écrit mais avec un libre arbitre qui est laissé à l'acteur et au spectateur, et le choix de l'acteur et du spectateur et du personnage est toujours un choix paradoxal parce que consenti. C'est-à-dire il faut accepter le choix consenti et le remotiver de l'intérieur. Et c'est ça qui donne en fait cette sorte de puissance métaphysique. C'est comme une sorte de détonation en deux temps, coat-coat. On a quelque chose qui est de l'ordre du rebond, où on sort aussi un peu désarçonné de cette pièce-là. Ce qui est intéressant, c'est les mises en scène qui ont eu lieu et aussi ce qu'on nous raconte des spectateurs. C'est-à-dire que on va avoir Cramponnez-vous, puisqu'il va y avoir une explosion finale, une sorte de grand feu d'artifice qui va arriver, que vous entendrez. Et donc, en 45, ce théâtre en miettes, ça fonctionne à plein. Vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est expérimental, théâtre anti-bourgeois, quelque chose qui est de l'ordre de la fabrication du bricolage et qui enthousiasme à fond au Liberty. On a dans Le Canard enchaîné une critique en 77 où on peut lire que en 77 on a des gens très gentiment assis qui attendent respectablement que le théâtre pète. Donc la question que se pose le critique, c'est pourquoi, voilà. D'où la mise en scène à nouveau de Maréchal qui va redonner une autre dimension à ce théâtre-là qui essaie de bousculer en fait les habitudes. D'où, je crois, l'interrogation qui peut subsister et qu'on peut aussi laisser nous, c'est-à-dire sans statuer ni donner une interprétation peut-être définitive à ces choix-là. Alors, bien sûr, on va avoir des syncrétismes, bien sûr, on a tout un tas de lectures qui se superposent, mais pas de lecture définitive.
Notamment, il nous est impossible de décider si la pièce est une comédie ou une tragédie, résolvant ainsi le dilemme d'Averroès dans une histoire célèbre de Borès. C'est fiction, on ne sait pas s'il faut en rire, parce que la tragédie est écrite depuis le début, le héros connaît la loi, il la viole, il va mourir, et il assume lui-même la nécessité de mourir, c'est-à-dire exactement l'histoire du prince de Hombourg, mais le prince de Hombourg n'est pas une pièce drôle, c'est une grande tragédie. Le prince de Hombourg est d'ailleurs sauvé d'une autre manière à la fin, et ici, on ne sait pas si avec ce vertige de numéro extraordinaire, de pastiches d'autres textes, récits d'aventure, personnages hérités de la farce et du guignol qui est celui du gendarme et bien d'autres, ce Mexique de pacotille, mais qui en même temps une certaine poésie. On ne sait pas si la vérité de la pièce n'est pas dans le comique de mots, dans le vertige poétique du langage, et si la tragédie n'est qu'un prétexte. C'est encore une question que pose la dernière scène que nous parlons, je crois qu'il faut...
Oui.
Non ?
Oui, je vais peut-être juste avant résumer en fait la fin du deuxième tableau. Puisque donc on a vu que la Mexicaine propose à Amédée une pierre qui lui permettrait éventuellement de faire exploser le navire et lui de se sauver. Amédée refuse de l'utiliser, il la remet au capitaine. Et sur ce arrive donc Madame Batrilan, qui révèle qu'en fait c'est elle le véritable agent secret et que qu'Amédée n'était qu'une stratégie en fait du gouvernement pour détourner l'attention d'éventuels opposants pendant que le véritable agent peut poursuivre tranquillement sa mission. Donc Amédée est censée être innocenté. Il y a un court moment de happy end où on pense que tout va bien se terminer et finalement Amédée, après avoir remercié le capitaine, insiste pour être quand même fusillé. Je vais peut-être rapidement lire un passage assez essentiel justement dans ce dénouement. Capitaine, j'ai une mission à remplir. J'en ai accepté les risques en même temps que les privilèges. J'aurais de gré ou de force subi votre injustice. Je n'accepterai pas votre clémence. Je veux arpenter jusqu'au bout mon propre chemin. Je repousse la tentation bifurquée. Un homme est un homme, mais non pas deux hommes ou dix hommes. Si je ne meurs pas, je ne vivrai plus. Ce sera un autre à ma place qui vivra sous ma peau, dans ma tête, entre mes jambes, entre mes bras, mais il ne sera plus moi. Et comment l'aimerais-je et le supporterais-je ? Et du coup, Amédée s'échappe de la cabine où il est avec tous les autres personnages, ce qui fait que le capitaine et Madame Batrilan se retrouvent enfermés dans la cabine. Et au moment où le capitaine s'apprête à défoncer la porte pour aller ordonner aux gendarmes de ne pas fusiller Amédée, on entend la rafale de la salve meurtrière. Et la pièce se termine ainsi. Le capitaine, donc. J'ai vécu dans l'âme, dans l'aventure, dans la personne de cet homme. Mais ne nous frappons pas, ne nous frappons pas. Rien ne peut l'atteindre. Rien ne peut vous atteindre si rien ne peut m'atteindre. Et rien ne peut m'atteindre puisque c'est moi le... Ah, bon Dieu. Madame Batrilan, vous êtes le bon Dieu ? Vraiment ? Le bon Dieu, qui est-ce ? Qui est le bon Dieu ? Vous disiez que... Je suis le maître du navire. Et je crois que j'en ai assez. Au commencement, c'était varié, amusant, pittoresque, cette bataille insoluble entre mon règlement et les passagers. Mais ça commence à sentir mauvais. Ça dure. Ça s'éternise. Pour eux, pour chacun d'eux, je veux bien, c'est toujours nouveau. Pour moi, c'est toujours pareil. La fusillade, le trésor, les discours. Et ils souffrent. Ça souffre beaucoup, les hommes. Ça souffre de vivre, ça souffre de mourir. Et puis, c'est aujourd'hui la fête de ma fille. Si nous en finissions, elle aura son bouquet. Il tire la pierre de sa poche. Cette pierre, elle est puissante. Elle est plus puissante encore que ne le croit notre Mexicaine. Si je jette cette pierre sur le parquet, tout saute, tout se dissout. Moi-même, avec ma casquette sans appel, je saute, je me dissous, je m'efface. Plus rien. Ni le trou noir d'une poulie, ni l'axe de la grande hélice. La table se sépare, le vide s'accomplit. Plus rien. Plus personne sur le navire. Plus de navire pour personne. Cramponnez-vous !